négociation. Il me semble qu'on s'est tellement parlé souvent de négociation de convention collective. Mais non, mais le problème a déjà été réglé. C'est au mois de juin dernier. Sauf que là, avec la pandémie, avec la situation économique, ça fait en sorte qu'on veut revisiter la part des joueurs pour faire en sorte que les propriétaires soient capables de présenter et de maintenir cette masse salariale. Ça demande beaucoup. Les joueurs réfléchissent de leur côté. On a eu entretien aujourd'hui entre les joueurs. Mais comment les joueurs réagissent à tout ça? On en parle avec Bruno Gervais qui est avec nous. Salut Bruno.
Salut Jérémy.
Bruno, as-tu parlé avec des gars? Sais-tu quelle est la réaction présentement suite à ces demandes de la Ligue nationale de hockey? Entre autres, on veut rajouter un autre 10 % de salaire reporté là, qu'on voudrait reporter. Est-ce que tu as des réactions?
Oui, j'ai parlé avec quelques joueurs aujourd'hui ou quelques membres d'organisation. Pour le plaisir, savoir s'en est où les discussions. Certains d'entre eux avaient eu un peu d'informations de l'appel. Il y en a qui attendaient encore cette information-là. Mais en gros, de ce que je ressens des joueurs, les gars comprennent et les gars veulent jouer. C'est ce qui sortait. Je pense que le gros bout de la négociation au niveau de l'argent a été le fait de mettre une limite, un cap, au pourcentage d'escrocs que ça pouvait atteindre pendant un nombre d'années pour être capable de récupérer de tout ça. Et ça avait été le gros bout du bâton. Maintenant, ce qui se négocie, c'est d'être capable d'ajuster le tout. Mais ces montants-là, c'est des montants qui vont être payés un peu plus tard. Fait que c'est comme si c'est de l'aide aux équipes pour être capable de partir, pour être capable que les salaires soient payés et qu'éventuellement, ça va revenir aux joueurs. En grande majorité, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Les points qui sont soulevés un peu plus souvent pour les joueurs à qui j'ai parlé, c'est un peu plus les détails de tout ça avec le voyagement, avec les divisions, comment ça va fonctionner. J'ai parlé à des joueurs qui n'ont pas encore de contrat présentement parce que tout ça met le marché des joueurs autonomes sur la glace. Et ça, c'est difficile pour certains. Ça fait un bon bout que les équipes sont au neutre parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut se permettre. Oui, tu as un plafond salarial, tu as un minimum à atteindre, mais il y a des équipes qui, eux autres, se disent wow, t'as un propriétaire salarial qui dit attends une minute, là, pas une scène, laissons, réglons ça, puis après ça, on va voir. Ça, c'est les situations. Mais en gros, les gars veulent jouer, sont prêts à faire leur part pour que les équipes aient ce cash flow-là. Et ensuite, recommencer, puis quand ils comprennent, là, quand les spectateurs vont venir dans les amphithéâtres, puis on va être capable de remplir ça à nouveau, bien là, on va pouvoir revisiter ça, puis on va pouvoir se réajuster.
OK. Ce qu'on voulait s'assurer, c'est que le 20 % du montant en fiducie qu'on enlève cette année aux joueurs, bien que ça ne soit pas augmenté. En fait, on dit, vous pouvez peut-être reporter notre salaire, mais de prendre un 20 % de notre salaire, c'est le maximum qu'on est prêt à accepter, c'est bien ça?
Exact. Ça, c'est ce qui avait été négocié au mois de juin. C'était une des choses que les équipes avaient parlé, c'est de mettre une limite à ça. Et justement, ne sachant pas jusqu'où ça allait aller, jusqu'où la pandémie pouvait aller, tout ce qui allait se passer, c'est de mettre une limite. Puis on va travailler avec vous pendant un certain nombre d'années, mais on ne pourra pas aller au-delà de ça. Ça ne pourra pas être une escroc, parce que si vraiment on y va avec le partage des revenus pour la prochaine saison, mais là, ça aurait été un 70-75% qui aurait été pris au salaire des joueurs si on se fiait juste au calcul qui était déjà sur la table. Fait que les joueurs se sont assurés que ce calcul-là ne peut pas dépasser une certaine limite. Et de là, on va travailler ensemble pour assurer que tout le monde peut sortir gagnant, parce que c'est un peu comme Pat Brisson mentionnait un peu plus tôt, c'est une situation qui va bien au-delà du sport, c'est une situation qui est mondiale. Donc oui, il y a un effort, je pense que tout le monde met de l'eau dans son vin présentement dans toutes les sphères de la société pour essayer de s'aider le plus possible. Les joueurs le comprennent très bien ça, et le côté mental aussi, il y a des joueurs que ça fait très longtemps qu'ils sont à la maison. Qui oublient, qu'il y a des matins qui oublient qu'ils sont des athlètes professionnels, des joueurs de hockey. Il y a ce côté-là, ils veulent juste renouer avec l'action, puis que le tout reprenne son cours normal tranquillement jusqu'à temps que ça puisse se régler avec traitement et vaccins, etc.
Bruno, dis-moi, est-ce que tu t'attends à ce que la Ligue nationale de hockey joue un match le 1er janvier?
Je suis un peu plus pessimiste là-dessus, puis c'était une des questions que j'avais. Je trouve ça extrêmement rapide encore. J'ai déjà vu Gary Bettman sortir des lapins de son chapeau. Il est capable de sortir un lion de son chapeau. Lui, il n'y a pas de problème. Il y a la possibilité de le faire. Mais de ce que j'entends de certains joueurs, c'est que dans leur tête, il est déjà trop tard pour être capable d'être prêt le 1er janvier. Oui, il y a des scénarios de camp d'entraînement extrêmement expéditifs, mais essaie de dire ça à un joueur qui, ça fait 6-7 mois, 8 mois, qui est arrêté complètement. peux pas mimiquer l'intensité d'un match. Tu as besoin de ce camp d'entraînement-là pour te préparer. Puis c'est là que ça devient un peu plus délicat pour les joueurs parce que c'est beaucoup plus risqué. C'est là qu'il y a le vrai risque, une blessure. Que j'ai un 100 000, 200 000, 500 000 selon mon contrat, que je n'aurai pas tout de suite, que je vais avoir dans le futur, c'est une chose que les joueurs peuvent négocier. Mais le fait que tu te mets dans un camp d'entraînement expéditif pour commencer une saison tout de suite, jouer des matchs quand ça fait 8 mois que tu es complètement arrêté, il y a un ajustement à ça. Il y a une façon de bien faire les choses. Je pense que tout le monde va être en mode vitesse au grand V pour être capable de repartir l'action. Mais il y a des délais, il y a des moments que je pense que les joueurs vont avoir besoin pour se préparer, les équipes vont avoir besoin pour se préparer. C'est pour ça que je pense qu'autour du 15 janvier, pour moi, serait un scénario qui pourrait fonctionner. 15 janvier au 15 mai, la saison, et ensuite jusqu'au 15 juillet pour les séries éliminatoires, ça te donne quand même une possibilité. Ce serait des mois chargés, mais des mois de 12 matchs en moyenne. Avec les congés à travers tout ça, il y a des mois qui vont être un peu plus taxés. Donc, il y a un ajustement à faire là, mais ça te donne la liberté de faire une saison potable et d'avoir un camp d'entraînement potable aussi.
OK. Ce que je comprends, c'est que tout le monde va revenir au camp d'entraînement après Noël, en fait. C'est correct, le jour de l'an, laisse-nous Noël, on va commencer après Noël, puis là, on aura le 15 janvier pour débuter tout ça. Est-ce que c'est bien ça que je comprends?
Ça pourrait être un des scénarios. C'est une des choses. C'était entendu dans l'entente. Le congé de Noël était coulé dans le béton, dans l'entente, dans la CBA. Mais c'est quelque chose que là, on va falloir jouer avec. Il y avait des scénarios qui amenaient les équipes à commencer le camp d'entraînement avant Noël, mais de quand même garder le congé de Noël. Tout le monde peut être installé dans leur ville, pouvoir avoir le congé de Noël à ce moment-là, puis recommencer tout de suite après. Pour continuer le camp d'entraînement, chevaucher Noël, c'est sûr que tu n'as pas besoin d'avoir ton congé, ton 3-4 jours de congé comme tu aurais eu besoin pendant une saison régulière. Les gars s'ajustent, mais d'arriver avant, de se donner le temps de faire le camp d'entraînement comme il faut pour être prêt au 15 janvier, ça serait pendant la période du camp d'entraînement. Fait que peut-être une journée de congé ou deux journées de congé pendant ton camp pour le Noël, mais ça serait dans les dates du Noël. C'est un des scénarios que je vois un peu plus réaliste à mes yeux, de ce que j'entends. Mais c'est sûr qu'eux autres veulent continuer à pousser pour le 1er janvier, à forcer les choses, à faire avancer les choses le plus vite possible. Puis si on voit que c'est trop serré et que ça passe pas sur le coin, bien là, d'être capable de décaler à ce moment-là. De commencer à parler immédiatement d'un 15 janvier, puis que ça bug ou qu'il y a un côté ou l'autre qui tire un peu plus sur la couverte puis que ça fait tirer les choses, bien là, quand tu commences à parler du 1er février, puis là, tu commences à être très, très tard, pour être capable d'avoir une saison avec un assez grand nombre de matchs, puis être capable de terminer le tout à une date raisonnable. On parle des Olympiques, on parle d'être capable de revenir à un calendrier qui existait avant le plus vite possible. Donc, ça commence à être difficile quand tu tires ça là, jusqu'au mois de février.
OK, parfait, Bruno. Je te remercie énormément. Donc, de ton côté, tu prévois peut-être la date du 15 janvier. On verra la suite des choses et on verra surtout s'il y aura entente entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale. Bruno Gervais, merci d'avoir été avec nous.
Un grand plaisir, mais une chose est sûre, on le souhaite tous. Je pense que j'ai bien hâte que ça reprenne.
On est deux, Bruno. Puis, d'après moi, on est plus que juste deux. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée.
Salut, là.